Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nine Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Dirigé par Jean Lopez et Olivier Viviorca, Les grandes erreurs de la Seconde Guerre mondiale est un ouvrage collectif d'histoire militaire et politique publié chez Perrin. Dans le prolongement des mythes de la Seconde Guerre mondiale, il réunit 20 contributions consacrées à des décisions ou orientations stratégiques dont les effets se sont révélés particulièrement coûteux. Le livre couvre l'ensemble du conflit et plusieurs théâtres d'opérations Europe occidentale et orientale, Méditerranée, Asie et Pacifique. Il ne se limite donc ni aux seuls choix d'Hitler, ni aux seules opérations terrestres. Il examine aussi les calculs britanniques, américains, soviétiques et japonais. Son objet est moins de distribuer rétrospectivement les blâmes que de comprendre pourquoi des responsables, disposant d'informations incomplètes et soumis à de fortes contraintes, ont persévéré dans des options défectueuses. De l'apaisement à Market Garden, de Barbarossa à Midway, les études mettent en relation objectifs politiques, appréciation de l'ennemi, commandement, ressources et logistique. L'ensemble propose ainsi une lecture transversale de la guerre par ses échecs décisifs ou durablement aggravants. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, une histoire mondiale du conflit à travers 20 erreurs stratégiques. La première singularité de l'ouvrage réside dans son choix d'une histoire par étude de cas plutôt que dans un récit chronologique continu. Les 20 erreurs annoncées vont de l'apaisement précédant la guerre à l'opération Market Garden de 1944, en passant par l'agression japonaise contre la Chine. L'intervention italienne en Grèce, l'abandon de Singapour, Dieppe, Midway, Stalingrad ou l'insurrection de Varsovie. Cette amplitude empêche de réduire la Seconde Guerre mondiale à un affrontement germano-soviétique ou à la seule campagne de France. Elle fait apparaître l'interdépendance des fronts, un choix naval japonais pèse sur l'équilibre du Pacifique. Tandis que les priorités britanniques en Europe éclairent certaines vulnérabilités impériales en Asie. La notion d'erreur sert ici de fil directeur, non de formule uniforme. Certaines décisions relèvent d'une croyance politique mal fondée, comme l'apaisement face au Reich. D'autres sont des paris opérationnels excessifs, tels Midway ou Market Garden. D'autres encore découlent d'objectifs militaires incompatibles avec les moyens disponibles. La juxtaposition des dossiers permet donc de comparer les mécanismes sans prétendre que tous les échecs se valent. Elle rappelle également que les effets d'une décision dépassent souvent son résultat immédiat, une opération manquée peut consommer des forces irremplaçables, prolonger une campagne ou laisser l'initiative à l'adversaire. Le livre propose ainsi une cartographie raisonnée des choix qui ont contribué à durcir et prolonger la guerre. Deuxièmement, l'information imparfaite et la sous-estimation récurrente de l'adversaire. Un enseignement transversal du recueil concerne la qualité nécessairement limitée de l'information disponible au moment où les décisions sont prises. Les dirigeants et états-majors n'agissent pas avec le recul des archives ni avec la connaissance de l'issue du conflit. Ils doivent interpréter des rapports incomplets, des renseignements parfois contradictoires, des délais de transmission et les effets de la propagande. Cette réserve est essentielle pour éviter de transformer toute défaite ultérieure en absurdité évidente. Elle n'empêche pas, toutefois, d'identifier des défauts de jugement récurrent sous estimation de la résistance adverse, lecture trop optimiste de ses faiblesses. Confiance excessive dans ses propres capacités de réaction. Le Haltbefehl devant Dunkerque illustre, selon la présentation de l'ouvrage, la difficulté de décider dans une situation mouvante, où la crainte d'une contre-attaque et l'état réel des unités pèsent sur le commandement allemand. Barbarossa renvoie, à une autre échelle, à l'incapacité allemande à mesurer durablement les ressources militaires, territoriales et humaines soviétiques. Les études consacrées au Pacifique soulignent de même qu'un avantage initial ne garantit ni la maîtrise du rythme de guerre, ni l'incapacité ennemie à apprendre, en traitant ces cas dans des contextes différents. Le volume montre que l'échec du renseignement n'est pas seulement une absence de données, c'est aussi une mauvaise hiérarchisation de celles qui existent. L'analyse historique devient alors une réflexion concrète sur les biais de perception en temps de crise. Troisièmement, la logistique comme limite matérielle des ambitions militaires, les grandes erreurs examinées ne s'expliquent pas seulement par les tempéraments des chefs ou par leur doctrine. Elle révèle fréquemment l'écart entre l'ambition stratégique et les capacités matérielles. Le recueil met en avant la faiblesse logistique parmi les facteurs qui rendent des objectifs irréalistes ou transforment un succès local en impasse. Cette attention est importante, car la Seconde Guerre mondiale est un conflit d'une ampleur industrielle exceptionnelle. Déplacer, approvisionner, entretenir et remplacer les forces comptent autant que les engager. L'opération Barbarossa est à cet égard inséparable des distances soviétiques, de l'usure des moyens de transport, de la consommation de carburant et de l'impossibilité de convertir rapidement les gains territoriaux en contrôle effectif. Le choix de front secondaire, notamment en Méditerranée, pose lui aussi la question de la dispersion des ressources et de la cohérence entre priorités politiques et capacités militaires. Même les décisions apparemment tactiques, comme l'arrêt devant Dunkerque ou l'absence de capture de Malte, ne peuvent être comprises sans considérer l'état des forces. Les liaisons maritimes, l'aviation et les contraintes de soutien. L'apport du livre est de résister à l'illusion selon laquelle une volonté plus ferme aurait suffi à changer le cours des choses. Une décision peut être audacieuse, idéologiquement séduisante ou politiquement populaire, tout en étant matériellement insoutenable. En ce sens, les erreurs décrites sont souvent des erreurs de proportion, elles négligent le temps, l'espace, les flux et l'attrition nécessaires à toute stratégie durable. Quatrièmement, l'hybride des décideurs face aux contraintes politiques et militaires, le volume accorde une place centrale au comportement de commandement orgueil, obstination. Opportunisme et carriérisme peuvent aggraver les limites objectives d'une situation. Il ne présente pas ces traits comme des explications psychologiques suffisantes, mais comme des facteurs qui empêchent de corriger une orientation devenue défaillante. La décision stratégique est en effet prise dans des organisations hiérarchisées où l'aveu d'une erreur a un coût politique, symbolique et personnel. L'intervention italienne en Grèce, les choix du Reich ou certaines opérations alliées montrent que le désir de prestige, la rivalité entre institutions et la recherche d'un succès rapide peuvent primer sur une évaluation prudente des risques. Stalingrad constitue un exemple particulièrement marquant de cette problématique au-delà de la bataille elle-même. Le cas interroge la persistance dans un objectif dont le prix et les conditions de réussite se dégradent. De même, l'exigence alliée de capitulation sans condition est incluse parmi les décisions discutées, ce qui rappelle que le livre ne réserve pas la notion d'erreur au camp vaincu. L'intérêt de cette approche est de relier les opérations à leur environnement politique. Les armées ne choisissent pas librement leurs objectifs. Elles exécutent des décisions façonnées par l'idéologie, les alliances, l'opinion, les rivalités de commandement et les impératifs de légitimité. Le recueil invite donc à distinguer l'audace rationnelle du volontarisme. Refuser d'adapter un plan aux faits peut faire de la détermination une source supplémentaire de pertes et d'échecs. En dernier lieu, réexaminer les récits consacrés de Dunkerque, Midway, Stalingrad et Market Garden en choisissant des épisodes très connus. L'ouvrage ne cherche pas prioritairement à révéler des événements ignorés. Il vise à déplacer le regard porté sur eux. Dunkerque est souvent raconté à travers l'évacuation britannique, tandis que l'étude du Haltbefehl interroge le choix allemand de suspendre l'élan offensif. Midway est régulièrement considéré comme le tournant naval du Pacifique. Son traitement permet de revenir aux hypothèses et aux risques pris par l'état-major japonais. Stalingrad, symbole majeur de l'anéantissement de la 6e armée allemande, est analysé comme un non-sens stratégique plutôt que comme une simple succession de combats urbains. Enfin, Market Garden donne à voir comment une opération alliée ambitieuse, conçue pour accélérer la progression vers l'Allemagne, pouvait échouer par excès d'optimisme et par mauvaise adéquation entre planification et réalité du terrain. Cette démarche, comparée à une vertu critique, elle sépare les résultats ultérieurement célèbres des options réellement ouvertes aux acteurs. Elle rappelle aussi que propagande nationale et mémoire de guerre ont parfois transformé des revers, des compromis ou des occasions manquées en récits plus flatteurs. Les chapitres, courts et parfois techniques, paraissent conçus comme des mises au point ciblées plutôt que comme des verdicts définitifs. Le lecteur est ainsi conduit à examiner la chaîne complète d'une décision, le problème initial, les informations disponibles, les alternatives envisageables, l'exécution, puis les conséquences. Cette méthode donne une densité analytique particulière à des épisodes pourtant abondamment commentés. En conclusion, les grandes erreurs de la Seconde Guerre mondiale s'adressent d'abord aux lecteurs déjà intéressés par le conflit, qui souhaitent dépasser les récits linéaires de bataille et les explications fondées sur un seul grand tournant. Il conviendra également aux étudiants, enseignants et amateurs d'histoire militaire désireux de disposer de dossiers synthétiques sur des choix controversés répartis entre les fronts européens, méditerranéens et asiatiques. Son bénéfice intellectuel majeur est d'apprendre à raisonner à plusieurs niveaux. Une décision ne se juge ni par son seul résultat ni par la psychologie d'un chef, mais aussi par l'état des connaissances, les objectifs politiques, les contraintes logistiques, les rivalités de commandement et la capacité de l'ennemi à répondre. L'ouvrage se distingue des synthèses générales de la guerre par son angle résolument problématique. Au lieu de raconter l'ensemble des opérations dans leur succession, il isole 20 nœuds de décision et les met en comparaison. Cette structure favorise une lecture active, le lecteur mesure ce qui relevait d'un pari défendable, d'une information mal interprétée, d'une surestimation des moyens ou d'une obstination coûteuse. Le livre évite aussi une vision exclusivement centrée sur l'Allemagne nazie en intégrant les erreurs britanniques, alliées, soviétiques, italiennes et japonaises. Dirigé par Jean Lopez et Olivier Wiviorca et nourri par plusieurs spécialistes, il offre ainsi un panorama accessible mais exigeant. Sa principale force est de faire des échecs non des anecdotes, mais des révélateurs des mécanismes concrets de la conduite de la guerre totale. Si vous souhaitez soutenir Collectif, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.